Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble, bien sûr, tous les jours, du lundi au vendredi, jusqu'à 15h, 3h de direct avec vous au 3216 ou sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Martin Bourdin se fait un plaisir de lire et de relayer vos messages. Martin Bourdin qui est avec également aux côtés, en tout cas, de Laurent Dandrieux, chef du service culture de Valeurs Actuelles. Catherine Rambert est là aussi, journaliste et écrivain. Et puis l'économiste Pierre Rondeau. Dans un instant, on va débattre autour des premières manif du deuxième quinquennat Macron. Ce sera dimanche 1er mai avec le thème central des retraites. Le président de la République doit-il déjà envisager de faire marche arrière ou de ne rien faire sur les retraites? Justement, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, le rendez-vous des notaires. On est vendredi avec cette question épineuse. Puis-je déshériter mon enfant? Eh ben, des notaires y répondront. Eh ben oui, mais c'est... Ben, il y a des familles dans lesquelles on se pose cette question. À 14h, une ville allemande qui autorise la pratique du sein nu à la piscine. Doit-on faire la même chose en France? Là encore, on attend vos avis. Et puis, il y aura les immanquables de Martin Bourdin vers 14h30. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec la baisse de MaPrimeRénov' à partir de dimanche. Dépêchez-vous de faire des travaux. Et puis, 6 Français sur 10 qui regrettent déjà d'avoir changé de boulot durant la pandémie. Et puis, on terminera avec le quiz. Martin, il y a un très beau cadeau à gagner.
Une semaine pour 4 personnes à gagner toute cette semaine dans le quiz d'Estelle. Vous allez pouvoir choisir parmi plus de 100 destinations partout en France. Vous êtes pris en charge en pension complète pour tenter de remporter cette semaine VVF. Vous vous inscrivez en appelant le 3216, vous appuyez sur la touche 4 ou alors vous envoyez quiz par SMS au 7 32 16. Quiz au 7 32 16.
RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC et on va s'intéresser à la première du jour. Pour la première fois depuis le début de la 5e République, le 1er mai tombe après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et qui dit 1er mai, évidemment, dit manifestation. Et cette année, elles seront placées sous le signe des retraites, un sujet explosif pour Emmanuel Macron, Martin.
Parce que de tous les projets d'Emmanuel Macron, c'est celui-là qui a fait le plus parler, c'est celui-là qui semble le plus divisé. Ça, c'est d'ailleurs vu pendant l'entre-deux tours, où il avait déjà mis un peu d'eau dans son vin. Le président réélu, en évoquant un âge légal de départ à la retraite, non plus à 65, mais à 64 ans, 64% des Français se disent opposés à ce projet de report de l'âge légal de départ à la retraite. Mais à peine le président réélu que son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, disait ne pas exclure le recours au 49-3 pour faire passer cette réforme des retraites. Alors pour une fois que le 1er mai arrive après le second tour de l'élection présidentielle, le défilé traditionnel des syndicats va évidemment prendre un accent très économique dimanche. C'est l'un des arguments mis en avant par la CGT pour appeler à manifester cette réforme des retraites. Le syndicat défend une retraite à 60 ans, comme le promettait Jean-Luc Mélenchon dans son programme Force Ouvrière. La FSU Solidaire veulent aussi mettre la pression sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron tout particulièrement. Pas la CFDT. La CFDT, pardon, qui a décidé de célébrer la fête du travail sur le thème de l'écologie à Paris et qui ne se mêlera donc pas au rassemblement.
Alors nous, on va parler des retraites. Emmanuel Macron doit-il déjà envisager de reculer ou de ne rien faire durant son quinquennat? Pour vous, Laurent Dandrieux.
Alors déjà, on va se calmer. On va peut-être attendre que le défilé du 1er mai ait lieu, parce que si ça se trouve, ça va être un flop. On ne sait pas, c'est possible.
Enfin, il y aura d'autres défilés, vous savez.
Oui, d'accord. Mais attendons déjà de voir ce que celui-là donne, puisque notamment la CGT a dit qu'elle voulait en faire une manifestation de force dans la lutte contre ce projet. Ensuite, j'ai cru comprendre qu'il y avait des législatives... au mois de juin. Mmh. Alors autant je peux comprendre l'argument qui consiste à dire l'enjeu du vote du deuxième tour de la présidentielle n'était pas les retraites, et donc c'est pas autour du projet des retraites que les gens se sont déterminés entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Autant aux législatives, il va y avoir trois grands blocs qui vont s'affronter, La République En Marche, La France Insoumise et le Rassemblement National. Et dans ces trois grands blocs, il y en a deux très clairement qui sont très opposés à cette réforme. Et donc si effectivement ces élections dégagent une majorité qui est opposée à la réforme, eh bien je pense que ça l'enterrera de sa belle mort. Si en revanche La République En Marche et ses alliés arrivent à avoir une majorité, c'est sûr que ça donne une légitimité à ce projet. avec ce bémol quand même que entre les deux tours, Emmanuel Macron lui-même a dit si jamais ça suscite trop d'angoisse, il est possible
qu'on fasse
marche arrière. Or, on sait par définition
circule encore de deux ans, on est pas là, vous voyez.
Parce que pour peu qu'il y ait une autre pandémie qui arrive de Chine ou je sais pas trop quoi, mais c'est vrai que par définition, un projet de réforme des retraites, ça suscite de l'angoisse. Mmh. Donc la formulation était un peu curieuse et pas très encourageante pour ceux qui souhaitent cette réforme.
Est-ce que les syndicats auraient tout intérêt, Pierre Rondeau, à faire une manifestation de force dans les rues ce dimanche, quoi, pour montrer que justement, ils sont contre ce projet de retraite. Alors à 65, 64, on ne comprendra pas très bien. Mais est-ce que c'est à eux aussi de mettre un maximum de monde dans la rue ?
C'est à eux. Alors oui, effectivement, on peut s'attendre à ce qui est si, effectivement, Emmanuel Macron va au bout de son projet de réforme et met en place cette réforme, que les syndicats s'y opposent, s'en insurgent et mettent du monde dans la rue. De là à croire que dès dimanche, il y en aura, voilà, Laurent l'a très bien rappelé, on est finalement qu'à une semaine après le second tour. Les
j'ai
législatives...
l'impression que c'est déjà il y a 10 ans.
C'est une semaine.
Ouais,
ça n'en finit pas ce quinquennat.
Oui,
on n'a toujours pas le nouveau gouvernement. Non. On ne sait pas comment il sera constitué. On n'a
pas
encore les législatives. Donc pour l'instant, je ne vois pas pourquoi les syndicats devraient tout de suite mettre en avant leur opposition si on ne sait même pas si ce projet de réforme aura lieu. Mais l'autre élément aussi.
Pour montrer tout de suite qu'ils sont contre.
Mais l'autre élément, moi, qui m'inquiète pas, mais justement le principe des manifs, c'est le bouleversement qu'il y a eu depuis quelques années, notamment avec Emmanuel Macron, même avant avec François Hollande, c'est le changement du rapport vis-à-vis du syndicalisme et des luttes sociales. Parce que moi, autrefois, quand j'étais plus jeune, le 1er mai, c'était le muguet, c'était la fête du travail. Ça rendait hommage aux travailleurs. Et qu'on soit ou pas opposé au gouvernement ou aux forces en présence, on allait manifester d'abord et avant tout pour rendre hommage aux travailleurs. Maintenant, on veut que les manifestations, quelles qu'elles soient, y compris le 1er mai, soient d'abord et avant tout des luttes d'opposition.
Non, c'est des revendications.
Oui, mais ce qui n'était pas le cas autrefois.
Ça a été la loi travail. En 2002, quand c'était l'entre-deux tours, la manifestation du 1er mai avait pris
des... une opposition politique, en opposition au Front National. Là, aujourd'hui, on est sur une opposition frontale, avant même qu'un
Le travail et la retraite, c'est lié, vous voyez ce
d'accord,
que je veux dire.
Mais avant même que le gouvernement n'ait mis en place son projet de réforme, on n'est même pas sûr qu'il aura lieu, on ne sait même pas comment ça va se passer. Peut-être qu'en juin, on aura une majorité en opposition avec Emmanuel Macron, on n'en sait rien. On s'imagine qu'il va y avoir des affrontements, une lutte de violence et du monde dans la rue.
Mais qui a parlé d'affrontements ? Il y a des manifs pacifistes. Il pouvait y avoir beaucoup de gens dans la rue. Il pouvait y avoir un million de personnes dans la rue. Bon, ce qui
n'a pas tellement été ça ces dernières années.
Il y a pas besoin d'une manif face à un effet.
On peut aussi rendre hommage aux travailleurs sans forcément vouloir s'opposer frontalement au gouvernement.
Je fais deux paris. Pour prendre à ta question, Laurent. Il fait beau dimanche sur toute la France, ça va être un carton, il y aura beaucoup de monde, ils vont beaucoup mobiliser. Je fais un deuxième pari, il fera pas sa réforme, ou il la fera pas à 64 ans, il va la faire à minima, parce qu'il pourra pas se dédire, mais aucun des contextes n'est posé en ce moment pour faire une telle réforme. La hausse du prix des matières premières, l'inflation, le chômage, l'inquiétude des Français, la guerre en Ukraine.
Le timing n'est pas le bon, quoi.
Les salaires trop bas, etc. Et on va dire aux gens là-dessus, hé Coco, tu sais quoi? 3-4 ans de plus pour travailler. Je pense que là, c'est jeter une allumette sur une botte de foin. Donc je prends deux paris. Ça n'a pas forcément dégénéré dimanche. Je pense que ça va être une grande manifestation.
Il faut espérer que ça dégénère.
Personne ne souhaite que ça dégénère d'ailleurs.
Oui,
ça
peut être
un grand mouvement populaire avec des gens qui vont montrer leur rapport de force. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, en juin, il y a le risque, parce que Mélenchon a beau s'autoproclamer Premier ministre, il y a quand même le risque que Macron fasse un carton plein en juin législatif.
C'est un risque. Mais moi, ce que je trouve un peu inquiétant.
Il y a le risque pour les gens qui manifestent.
Ah oui.
Oui.
D'accord, c'est pas gagné quand même.
Ce que je trouve un peu inquiétant, c'est les positions des gens de la France insoumise, et notamment de Clémentine Autain, que j'ai entendu dire sur un plateau, bon, c'est pas grave, si on perd les élections législatives, et même si les gens nous donnent tort, on aura raison quand même grâce à la rue.
Il y a quand même la rue a fait la loi pendant le quinquennat Macron,
mais il y a cette idée, les zones. Les Français sont opposés à la réforme.
Bah oui.
Oui, mais il y a cette idée quand même que le résultat des élections est secondaire et que c'est pas grave si on perd parce qu'on a raison de toute façon. En tout cas, la façon dont c'est formulé par la France insoumise, je trouve que c'est un peu choquant.
Il n'y a pas que la France insoumise qui manifeste, ça veut dire contre les retraites.
Non.
Excusez-moi, chaque président
qui essaie de
faire une réforme contre les retraites, il y a eu des manifs.
Là où Laurent a raison, c'est que la France insoumise se met dans une posture de contestation du résultat par la rue et par la manif.
Vous avez aussi Bruno Le Maire.
Ce
que je trouve d'ailleurs assez curieux, même d'un point de vue de tactique politique, c'est-à-dire dire avant les élections, c'est pas tellement les élections qui détermineront le résultat, c'est le combat dans la rue après. C'est pas forcément le meilleur moyen de mobiliser les gens.
on a vu que c'est quand même souvent ça.
Vous avez aussi Bruno Le Maire qui inversement a dit qu'on fera, on passera la réforme par le, oui. par le 49-3.
Non, il n'a ouais, pas dit ça comme ça.
Bruno Le Maire,
j'ai pas mis entre guillemets.
Il accumule boulette sur boulette quand même.
Bruno Le Maire ne devrait pas être au prochain gouvernement.
On lui pose la question, il dit je ne peux pas l'exclure, alors qu'il aurait dû dire la question ne se pose pas. Il aurait dû botter en touche, il ne l'a pas fait bêtement.
Sur la question de respecter le résultat des urnes, il y a aussi Philippe Martinez qui avait dit les urnes c'est important, la rue c'est essentiel. En inscrivant oui, oui. une.
Mais un leader syndicaliste, il est oui. plus dans son rôle en disant ça que la représentante d'un candidat qui présente des candidats ou d'un parti qui présente des candidats aux législatives.
Allez-y, Martin.
En tout cas, sur DirectV, il y a beaucoup de messages dans lesquels vous ne semblez pas forcément comprendre ces manifestations. Il y a Clémence, notamment, qui nous dit combien ont été votés sur tous les manifestants qui prévoient de descendre dans la rue dimanche. Il y en a marre de ces manifestations de gens qui ne se sont pas déplacés pour voter.
Ou qui ont voté Macron.
En tout cas, beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là.
Ou qui ont voté Macron, parce qu'il y a des gens qui appellent à voter et qui ont voté Macron.
Exactement. On est avec Jean-Pierre Mercier, délégué CGT PSA à Poissy. Merci Jean-Pierre Mercier d'être avec nous sur RMC.
Bonjour.
Jean-Pierre, vous allez manifester dimanche ?
Bien sûr, je vais manifester et je milite pour que le plus possible de salariés de PSA Poissy, mais du groupe PSA, aillent dans la rue le 1er mai, parce que effectivement, c'est pas une manifestation pour rendre hommage aux travailleurs, c'est une manifestation pour faire entendre nos revendications, pour défendre nos intérêts de travailleurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués de tous les côtés.
Mais comment ça, vous êtes attaqués ?
Attaquer avec les projets qui sont dans les tiroirs. Emmanuel Macron, il a eu en tout cas cette sincérité de dire que s'il était président, il allait s'attaquer à nos retraites, il allait repousser l'âge de la retraite jusqu'à 64, 65 ans.
64.
Oui, de toute façon, même si c'est 6 mois de plus, c'est 6 mois de trop. Aujourd'hui, dans les usines, dans les entreprises, dans les bureaux, on croule sous la charge de travail. Voilà, on n'est pas assez nombreux à travailler dans les entreprises, et on voudrait, avec le chômage que l'on a, on voudrait que nous, on nous fasse travailler le plus longtemps possible, encore plus longtemps, alors que les jeunes, ils sont en train de crever au chômage, ils ne demandent qu'à travailler.
Jean-Pierre Mercier, excusez-moi, alors je veux bien tout entendre, mais enfin, le chômage, moins 15% cette année, moins 5% sur le dernier trimestre.
Et donc, il n'y a plus de chômeurs.
Enfin, il y en a moins qu'avant, en tout cas.
Non, les jeunes qui travaillent dans mon usine, dans l'usine de Poissy et dans le groupe PSA, c'est des jeunes intérimaires. Ils n'ont pas de situation stable et ils sont foutus à la porte.
Mais ça, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment on peut faire de la place aux jeunes pour qu'ils se fassent embaucher en CDI, si nous, les CDI, on garde la place le plus longtemps possible, jusqu'à 64 ans, 65 ans. Ça, c'est une logique patronale, c'est une logique gouvernementale qu'il faut absolument combattre.
Vous, ce que vous dites, Jean-Pierre Mercier, c'est concrètement, voilà, on ne travaillera pas une semaine de plus, quoi. Il faut que ça reste en l'état, en fait.
Ah ouais, c'est impossible d'envisager de travailler encore plus longtemps. Moi, mon cas personnel, aujourd'hui, j'en suis à partir à la retraite à 62 ans et demi. J'ai 54 ans, j'ai 25 ans de maison derrière moi. Voilà, je bosse depuis l'âge de 19 ans. Là, ça veut dire qu'on me rajoute 3 ans, on me rajoute 2 ans, 3 ans. Et c'est pas possible. Jusqu'où on va aller comme ça? Qu'est-ce qu'on va accepter encore de plus? Là, aujourd'hui, c'est impossible d'accepter le moindre recul supplémentaire. On a nos salaires qui sont bloqués, on a nos retraites qui sont attaquées, il y a les prix qui flambent. C'est bon, on en a marre de payer.
Jean-Pierre Mercier, vous attendez combien de personnes dans la rue ce dimanche? Est-ce que ça va être des manifestations monstres? Parce que là, on vous a au téléphone, mais c'est vrai que j'ai vu assez peu d'appels. Vous voyez, que ce soit dans les journaux, à la radio, même sur les sites internet. Voilà, on n'a pas l'impression que c'est un truc énorme qui se prépare.
Écoutez, je suis incapable de vous répondre précisément. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Moi, ce que j'ai en tête, ce 1er mai, c'est la deadline, il faut que ça soit la date de départ de la mobilisation. Voilà, il faut commencer à montrer ses forces, commencer à se mobiliser. C'est pas le 1er mai qui va résoudre tous les problèmes et repousser toutes les attaques, on en est bien conscient. Donc c'est une première étape d'une longue mobilisation qu'il va falloir construire, parce que en face, ils ont décidé de nous faire la peau.
Oui, mais vous avez parlé, monsieur, de la sincérité. Vous avez dit Emmanuel Macron a eu la sincérité de préciser clairement ce qu'il voulait faire sur ce plan-là. Est-ce que du coup, ça ne veut pas dire que les projets sont sur la table et donc c'est aux élections législatives du mois de juin de trancher?
Non. Ceux qui sont aptes à trancher, c'est ceux qui sont au travail, c'est les actifs.
Et ils votent aussi.
Si les élections donnent, si Emmanuel Macron, il a une majorité au Parlement, il essaiera de passer son projet, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas manifester, qu'on doit pas défendre nos intérêts. Écoutez, moi je me souviens de la manif pour tous. Vous savez, quand le gouvernement il avait fait le mariage pour tous, le
mariage homosexuel.
Toute la droite et l'extrême droite, ils sont descendus dans la rue. Ils n'ont pas respecté les urnes. Bon, bah nous, il faut qu'on fasse pareil.
Enfin, ils ont perdu, hein.
Il faut. Oui, mais nous, on va gagner.
Mais écoutez, je vous le souhaite, Jean-Pierre Mercier, et merci puis on verra combien il y aura de personnes dans la rue dimanche. Bonne manif, Jean-Pierre Mercier. On a beaucoup de témoignages, Martin, sur ce sujet.
Notamment celui de Cathy, qui dit qu'elle est entièrement d'accord avec les arguments avancés par Catherine tout à l'heure. Cathy qui dit qu'elle est handicapée, qu'elle travaille, mais la retraite à 65 ans, c'est inenvisageable pour elle. Elle sera dans la rue pour la première fois.
Il y a un élément aussi à prendre en considération par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que rappelons tout de même que le Conseil d'orientation des retraites n'a pas précisé que maintenir en l'état le système des retraites nous fait courir à la catastrophe.
Non.
Le Conseil d'orientation des retraites précise qu'il y a effectivement des pertes du fait du nombre d'années de cotisation jusqu'en 2030-2040, mais une perspective de rééquilibrage pour 2060-2070. Ouais. Donc, vouloir réformer à tout prix...
Attendez, je réfléchis à mon âge.
Non, et puis, il y a aussi un aspect dont on ne parle jamais, c'est que dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, on constate qu'à partir du moment où vous avez passé 60 ans, on vous regarde un peu d'un mauvais œil et on vous pousse gentiment vers la sortie parce qu'on considère que vous êtes moins réactif, moins dynamique.
C'est ça,
moins
c'est pour ça que les gens avaient 2 ans de chômage et après la retraite.
Donc il y a un moment, ça veut dire porter la retraite à 65 ans, ça veut dire allonger cette période où vous êtes contraint de continuer à travailler, mais en même temps, pas totalement le bienvenu dans votre entreprise. Donc c'est quand même assez délicat, ça.
C'est allonger la période de placard, en fait, ça voulait dire.
Avec un taux d'emploi des seniors bien faible par rapport aux autres pays européens. On a 55% de taux d'emploi pour les plus de... Voilà, donc vouloir les maintenir en situation de
quelque chose d'un peu artificiel
alors qu'ils sont au chômage, c'est tout de même paradoxal.
Alors on est avec Jean qui nous appelle de La Roque des Albères dans les Pyrénées orientales.
La Roque des Albères.
La Roque des Albères, pardon Jean. Il fait beau là-bas ?
Bah, je suis 26, 28, il fait chaud.
Ouais. Bon, là, mais quelle chance. Ouais. Vous faites quoi dans la vie, Jean ?
Ah, moi, je suis salarié, je travaille dans une usine, je travaille en 3-8, en équipe alternante, voilà, dans le bruit, la chaleur, c'est voilà.
Donc normalement, vous partirez plutôt à la retraite, j'imagine. Il y a une pénibilité quand même.
Ah oui, alors si on attaque le sujet de la pénibilité, ça a été mis par le gouvernement Hollande en 2015. Mais la loi ne tient pas compte de la rétroactivité, vous voyez.
D'accord.
Donc capitaliser des points, à partir du moment où la loi a été créée en 2015. Donc, alors que moi, j'étais exposé à un critère de pénibilité, c'est les 3-8, le produit chimique ou la chaleur ou ce que vous voulez. Il y a quelques peu de critères qui restent, parce que Macron, il a, pendant son coquillage, il a tout démonté, là, de toute façon. Hein. Voilà, donc ça fait que déjà, il y a plus, on vous donne des points, et puis les 20 premiers points, ils sont bloqués pour la formation.
Mais Jean, alors j'imagine que vous avez quel âge, Jean ?
59 ans et passé.
Et des poussières. Bon. Donc j'imagine que vous avez fait une simulation pour savoir à quel âge vous allez partir à la retraite, vous partirez à quel âge ?
Mais normalement, je dois partir l'année prochaine, carrière longue, parce que là, c'est pas pour la pénibilité, pour la carrière longue, la pénibilité, ça n'apporte aucun point.
D'accord.
Pour l'instant, parce que j'ai pas fait de points, en fait.
Ok, et là, normalement, vous partez l'année prochaine ?
Théoriquement, oui, mais maintenant, je sais pas, le mouvement de Macron. Après, c'est, vous avez votre, sur le studio, là, toute façon, le comparaison est intéressante. Vous avez quelqu'un qui a évoqué le corps, c'est vrai que le corps, c'est pas un péril. On peut aussi évoquer le fonds de réserve des retraites. Parce que le fonds de réserve des retraites donne des ressources de 100 milliards. C'était mis par Jospin à l'époque. C'était un outil pour faire face à tout ça. Vous voyez, bon.
Oui, mais enfin, ça se tarit vite, hein, vous avez vu avec le Covid, hein, vous savez.
Ah ouais, mais ça faillit.
Avec l'inflation, vous savez.
Oui, mais là, on propose jusqu'à quoi? 8, 9 milliards, je crois, non? Les retraites, dont 100 milliards, on peut quand même traîner quelques temps.
Mais Jean, est-ce que vous oui. Sauriez imaginer travailler jusqu'à 64 ans où c'était impossible pour vous?
Ben là, moi, j'ai une prothèse de hanche, j'ai une épaule pétée, c'est compliqué, quoi. Voilà. Non, mais vous rendez pas compte de la pénibilité des gens. Les gens, à 60 ans, à la moitié, ils sont, soit qu'ils vont en retraite, un sur quatre, ou quatre, je crois qu'ils sont déjà chômeurs, ou alors ils sont en arrêt de maladie,
Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais.
Oui, après, voilà, on peut traîner. Vous voyez, et à l'Europe, c'est malheureux, mais je crois qu'on est le second pays en nombre d'accidents de travail, la France. Un nombre d'accidents de travail.
Ça, je vais demander à Pierre Rondeau de vérifier, il a toutes les études sous les yeux.
Mais pour regarder, je pense, regardez-le, vous voyez.
Et on est même aussi l'espérance de vie en bonne santé. Il a dit, genre, en bonne santé, c'est 65 ans.
Oui, donc effectivement, si on part à la retraite à 65 ans dès le lendemain, on est à l'hosto, c'est pas génial.
Actuelle, si vous coupez là, à l'heure actuelle, la CNAV a dit qu'on part en moyenne à 63 ans et demi en retraite. Il y a la réforme Touraine qui fait rajouter un trimestre par toutes les trois générations. C'est-à-dire que la génération qui sont nées en 1973, ils doivent cotiser minimum 43 ans. Vous voyez, déjà, il y a plein de mécanismes actuels qui font qu'on y va doucement vers toi, vous voyez.
C'est ça.
Ouais, donc je vois pas pourquoi, mais lui, parce que c'est ça, la réforme européenne. Il veut s'aligner à l'Europe, c'est européen, Macron. Il veut faire comme ses copains européens, il veut nous mettre ça, c'est tout.
Et Jean, vous serez dans la rue ou pas dimanche?
Non, c'est dimanche, non, parce que là, je travaille demain encore. Ouais. Juste, on coupe juste là, puis il faut reprendre. Vous voyez, c'est limite à la coupure, on autorise, on ne travaille pas dans la vie pareil. Mais voilà, vous voyez, donc, il y a plein d'outils qui sont en place et je pense ça sert à rien de faire travailler les gens plus tard. Je ne vois pas pourquoi l'intérêt, quoi, je veux dire. Ou alors, on peut le faire travailler plus tard, pourquoi on ne travaille pas plus longtemps la semaine, par exemple.
On passe sous un tunnel, Jean, on vous entend plus.
4 heures par semaine sur une carrière de 40 ans, mais de 3 ans, ça représente presque 3 ans. Est-ce qu'il vaut mieux faire 4 heures par semaine, on est un fonds pour efficace, que faire 3 ans, 64 ans, 65 ans, oui.
On fait passer cet midi sur 4 heures au lieu de 3.
Oui, c'est déjà. Bah écoutez, on va y réfléchir, Jean.
Mais 4 heures là, on met une cotisation particulière, un petit peu augmentée pour cotiser dans les retraites. Oui, on peut faire les choses plus simples. Oui, mais aussi, voilà.
J'adore Jean, il a plein d'idées, oui. Jean président, il y a que ça à dire. Merci
ministre du travail
de nous avoir appelé avec ce petit accent des Pyrénées orientales. Frédéric est avec nous, nous appelle de Haute-Garonne. Oui. Salut Frédéric.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Oui, j'ai écouté votre interlocuteur,
ça va aller Frédéric, mais c'est pas facile. La personne qui parlait, quoi.
Moi, j'ai commencé, j'avais à peine 16 ans dans le bâtiment.
D'accord.
Et là, j'ai vais sur mes 58 ans. Mm-hmm. Et vous savez, à la fin de semaine, quand vous faites vos 40 heures, je vais épuiser. Quand je vous entendis partir, moi, j'ai fait mon taux de... Il me reste encore 4 ans. Mais je ne sais même pas si je vais pouvoir tenir parce que, sincèrement, je suis fatigué.
Vous en avez marre, Frédéric?
Pardon?
Vous en avez marre?
Oui. Lundi, je suis passé à visite médicale. J'en ai parlé à la médecine du travail. Mm-hmm. J'en ai plein les fesses. on est fatigué, on est maintenant, et plus les chantiers avancent là, plus on est de plus en plus seul. Qu'on fait du ragréage là, vous faites 5 palettes dans la journée et tout. Vous imaginez? J'ai des sacs de 5 kilos et tout. Puis je pourrais pas jamais. Moi sincèrement, je pourrais jamais tenir. Encore 5 ans,
mais en fonction de la pénibilité, vous n'avez pas la possibilité de partir plus tôt, justement?
Mais si, il part à 61.
C'est oui, moi je pars à 61, moi. D'accord. Comme oui, 61 normalement.
D'accord. Parce que normalement, dans le projet Macron, il nous a répété que la pénibilité serait prise en compte. Mais bon,
pénibilité et carrière longue.
Mais Frédéric, vous dites un truc intéressant. Vous êtes allé à la médecine du travail. Quand vous dites au médecin du travail, je suis fatigué, j'en peux plus. Bon, je vais reprendre vos propos avec une partie anatomique, mais j'en ai plein de dos. Concrètement, le médecin vous dit quoi? Il vous arrête pas? Il vous dit
Non, pas du tout. Non, regardez, il vous reste 3 ans et demi. Allez, vous êtes presque au bout. Pourquoi j'ai certains collègues, je comprends pourquoi ils se mettent en maladie.
Vous avez raison, Frédéric. C'est là où on voit qu'il y a une fracture dans l'électorat qui a voté Macron, sans vouloir du tout contester le résultat des urnes, que je respecte absolument. C'est un électorat favorisé et plus âgé. Donc eux, il n'y a pas de souci. Ils sont à la retraite, ils sont d'accord pour que tout le monde paye.
Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de travailler au bureau jusqu'à 65 ans.
Bien sûr. Non, mais il y a quand même une vraie fracture entre les gens qui travaillent, qui font des métiers durs, et même les gens qui ne font pas des métiers durs. Moi, je me vois pas, titre personnel, travailler jusqu'à 65 ans. Je sais pas si j'en aurais envie.
Ça peut s'arranger, ça, Catherine.
Ça peut s'arranger. Merci Estelle. Méchante.
Jusqu'à 80 ans, je pourrais rester ici.
Ouais. Ça peut s'arranger aussi, Pierre Rondeau.
C'est pas ce que tu disais en antenne.
En tout cas, merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir appelé. Juste, vous irez dans la rue dimanche ou pas, Frédéric?
Non, je vais me reposer.
C'est un facteur qui compte aussi.
Je vais profiter un petit peu de mes enfants qui viennent à la maison de temps en temps et prendre le soleil.
Reposez-vous bien, Frédéric, et merci d'avoir été avec nous sur RMC. Christophe, des Pyrénées-Orientales de Perpignan. Bonjour, Christophe.
Bonjour.
Alors, vous êtes prof d'histoire géo, c'est aussi... Alors, Catherine Rambert disait les métiers pénibles, etc. Mais enfin, prof, c'est aussi un métier pénible. On ne le dit pas assez, Christophe.
Fatigant.
Vous partez à la retraite à quel âge ?
Bien, si jamais je dois cotiser 43 ans, ça me fera 66 ans.
Oh, 66 ans, et ça vous va ?
Non, ça me va pas, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même parce que c'est il faut penser collectif. Moi je regarde mes enfants et je sais que c'est eux qui vont me payer ma retraite. Et donc ils vont devoir beaucoup cotiser. Et donc en fait j'ai peur d'un transfert générationnel quand même, quoi. Je me dis que il y a beaucoup de métiers où on peut faire l'effort de travailler davantage. Peut-être pas Frédéric juste avant moi là
qui
avait un métier pénible. Et je pense qu'il peut y avoir des aménagements sur ce genre de métier. D'ailleurs je crois que le président l'a dit sans me préciser, mais il l'a dit. Mais globalement en France on le sait, on est des pays européens où on travaille le moins, où on rentre le plus tard sur le marché du travail, où on en sort le plus tôt. Moi, je veux bien que les autres pays européens soient tous des super-héros, mais bon, juste à côté de chez moi, en Espagne, ils partent à 67 ans, et je crois que l'Espagne va devenir le pays à l'espérance de vie la plus élevée au monde dans quelques années.
Ouais, mais ils tentent la semaine de 4 jours aussi, donc à un moment, si vous demandiez aux Français, est-ce que vous êtes prêt à travailler jusqu'à 65 ans
Il y a deux entreprises qui tentent la
semaine de 4 jours. Non, il y a 3000.
Moi, en Espagne, vous allez dans le secteur du tourisme, vous allez voir que 4 jours, c'est 4 jours pleins, quoi. Non, ils travaillent. Ils ont en Espagne, vous savez, ils ont une autre mentalité pour y aller de temps en temps.
Le
travail, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, quoi. Ils n'ont pas les mêmes droits, la même protection sociale qu'en France.
Mais, oui.
Mais bon, après, ils ont une solidarité familiale différente, mais ils travaillent davantage. Et un élément dont on n'a pas parlé là, dans votre débat, enfin, je ne crois pas. C'est le grand âge, quoi. C'est le grand âge. Et ça, il va falloir le financer. Ça va coûter une fortune. Et jusqu'à preuve du contraire, on va financer ça, entre autres, par le travail, quoi. Et la richesse d'un pays, c'est quand même le taux d'emploi, c'est quand même le travail. C'est ça qui fait le gâteau.
Et le capital.
Le gâteau, contrairement à ce que les syndicalistes disaient, il se partage pas comme ça de façon définie.
Oui, mais certes, mais si vous avez des gens qui sont cassés, à l'âge de 55, 60 ans, qui peuvent plus aller travailler et qui se mettent en arrêt de travail, ça coûte cher aussi à la société. Si cette personne, tout à l'heure, on a eu Frédéric. Frédéric, il lui rester 4 ans à travailler, il disait j'ai plus envie, quoi. Voilà, j'ai plus envie, je suis cassé. Qu'est-ce qu'il va faire, Frédéric? Là, il tient. Et puis à un moment, il va se mettre, ce qu'il disait, il va faire comme ses collègues.
Il
va se mettre
en arrêt de travail. Et 2 ans de chômage.
Et voilà, c'est ça, 2 ans de chômage, 2 ans en arrêt maladie. Donc, c'est aussi inextricable. Et la pénibilité, elle est subjective. Peut-être que vous avez envie de travailler jusqu'à 66 ans et que vous adorez votre métier. Mais enfin, on a eu des profs aussi dans Estelle Midi. Je crois pas qu'ils avaient envie de travailler jusqu'à 66 ans. Parce que pour eux, parce que la zone géographique dans laquelle ils exercent, etc. Le type d'élèves à qui ils enseignent est parfois difficile. Et vous avez des profs qui sont cassés à 45-50 ans aussi, Christophe.
Oui, non, mais ça, j'en ai conscience, encore une fois. D'ailleurs, j'ai fait des zones pénibles, et c'est vrai que nerveusement, c'est une fatigue qui est presque pire que la fatigue physique. Mais encore une fois, il faut quand même arriver à aménager les choses et à aller dans le bon sens. Il y a des aménagements possibles, c'est très complexe, en fait. On ne peut pas dire. D'ailleurs, moi, j'aurais parlé d'annuité plus que d'âge de départ. Mais,
c'est vrai.
Tout à fait, vous avez raison.
Parce que c'est vrai que commencer à 18 ans ou 19 ans, il y en a quand même de moins en moins. Moi, je vois des lycéens.
Oui, bien sûr.
Ils sont pas nombreux quand même à rentrer sur le
Ouais, sauf les apprentis.
Ils rentrent beaucoup plus tard. Hein. Donc, ce genre de carrière, ça va finalement finir par disparaître. Quoi. Et bon, après, des aménagements, mais même des changements d'activité, vous savez, ce qu'on appelait avant les temps partiels à la fin, à la fin de sa carrière.
Mais il y a beaucoup de gens qui font ça, ouais.
Ouais, ben voilà, tout ce genre de choses qui peuvent, ou bien d'autres, une sorte de.
Oui, mais ça favorise le temps partiel, donc c'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est ça le problème,
oui,
c'est que chaque fois, c'est.
Ça reste du travail, quoi, et ça reste
c'est vrai.
De participer à l'effort collectif, quoi. Moi, je trouve que c'est assez important, quoi.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Christophe pour votre témoignage et des messages, hein, Martin.
Et notamment deux messages qui sont arrivés sur Direct Studio l'un après l'autre et qui montrent bien la division de ce débat. Il y a Fabien d'abord qui nous dit qu'il y en a vraiment marre des pleurnichards de ce pays, la loi sur les retraites n'est pas encore passée, qu'il y a déjà des manifestations, on ne laisse jamais le temps à quoi que ce soit dans ce pays, il y en a marre, ça c'est ce que dit Fabien. Damien juste après qui nous envoie un message sur Direct Studio qui dit Macron va devoir faire demi-tour sur beaucoup de choses s'il ne veut pas voir sa France brûler.
Et on a fait, oula, carrément. On a fait un sondage, tiens, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Emmanuel Macron doit-il déjà envisager de faire marche arrière ? Ça donne quoi ?
Oui, à 68%.
Ah ouais, donc quand même
voilà,
très large.
À son âge.
Très large majorité. Ouais. Mais tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On se demandera si on peut se permettre de qualifier le président de la République de bâtard. C'est le député LFI François Ruffin qui a fait ça. Et puis on va se demander aussi si les boîtes de nuit sont devenues des lieux dangereux pour les femmes. Vous savez, à cause de ces histoires de piqûres. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h34, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23, et c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules. Ce matin, peut-on se permettre de qualifier le président de la République de bâtard? C'est le député LFI François Ruffin qui s'est permis de le faire hier en estimant qu'Emmanuel Macron était le bâtard de François Hollande. Mais ça ne choque pas du tout le chef d'entreprise Mehdi Ghezard qui dédramatise ses propos.
Il faut vraiment contextualiser la chose, et c'est dans une phrase qui veut dire justement le fils illégitime en quelque sorte de François Hollande. C'est plus subtil, c'est plus travaillé. Maintenant, si on commence à s'offusquer de tout ce que disent des conneries, comme conneries les politiques, bah écoute, on va faire une émission complètement pour les conneries entre un président qui dit j'emmerde les Français, un candidat à la présidentielle qui dit qui fait un doigt d'honneur, ça s'arrête jamais.
Ça vous choque, vous, qu'on puisse traiter le président de la République de bâtard, Laurent Dandrieux ?
Alors, c'est vrai que quand on contextualise, effectivement, qu'on prend la phrase dans sa globalité, c'est moins violent que s'il avait juste dit c'est un gros bâtard.
Oui, en fait, c'est le fils illégitime, voilà. C'est cette traduction.
Mais c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention aux mots, qu'on sait qu'on est dans une situation où la France est très fracturée, il y a un climat qui est très, très délétère et très explosif. Et donc, je pense que le rôle de tous les politiques, quels qu'ils soient, devrait être d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un débat, si possible, apaisé. Et malheureusement, nos amis de la France Insoumise ne sont pas toujours
exemplaires,
mais souvent eux, quand même. Mais il n'y a pas que, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est ce genre d'agressivité verbale, ça ne fait pas vraiment progresser les choses. Il y a d'autres moyens d'exprimer ce qu'on a envie de dire que ça.
Ouais, mais là où il y avait pas, alors effectivement, oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent, mais il y avait pas vraiment, quand on recontextualise et qu'on regarde précisément ce qu'il a dit, on affiche insulter le président. Là, en l'occurrence, c'est simplement, alors, il a utilisé le terme bâtard, non pas dans le sens de l'insulte.
Oui, c'est fils illégitime.
Mais voilà,
en fait.
C'est fils illégitime.
Bah oui, mais de ce cas-là, il peut le dire comme ça.
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça, moi, je rappelle, à l'école, on distinguait langage soutenu et langage courant. Mm. Il a utilisé le terme fils illégitime, mais dans un langage familier, courant, en disant bâtard.
Oui, en fait, connaissant Ruffin, il a quand même fait exprès d'employer ce terme.
Oui,
parce qu'on connaît la connotation que ça a.
Peut-être, non, mais c'est sûr. Mais il n'y a pas, si vous voulez, alors, effectivement, il y a une
connotation. C'est pas une insulte.
Mais c'est pas une insulte directe. Il n'a pas dit espèce de bâtard. Il n'a pas dit. Il a dit c'est le bâtard de François Hollande. Alors effectivement, langage familier, on pourrait s'offusquer qu'un représentant de la République, élu par le peuple, parle comme finalement n'importe qui, le commun des mortels, et décrédibilise finalement la stature politique d'un député.
Ça me gêne pas déranger. Qu'il parle comme le commun des mortels, sauf que là, il s'agit d'un mot qui est très connoté, qui notamment dans les banlieues est employé de manière récurrente.
Oui, mais c'est pas dans les banlieues, partout,
Laurent.
Mais Catherine, c'est est-ce que vous trouvez pas comme qu'il y a un laisser-aller? Alors ça avait commencé avec Nicolas Sarkozy, casse-toi pauvre con. Mais enfin derrière il y a eu effectivement j'emmerde les Français, fallait non vacciner. On a l'impression que ça y est, alors on est
aussi.
En politique, c'est comme si on était chez soi
open
ou au bistrot, quoi.
C'est ça. Sans faire old school, je crois j'avais jamais entendu Chirac, Mitterrand,
mais c'est pas le président comme Ruffin.
Ça. Non. Et général de Gaulle non plus.
Ruffin, c'est pas le président. Qui vient de citer une formule de Jacques Chirac extrêmement vulgaire.
Mais c'était pas français. Et effectivement, je pense que quand même les représentants des Français, quoi qu'on en pense, ils ont un devoir de respect des fonctions qu'ils incarnent. Enfin, c'est pas possible. Et puis on peut pas en plus être de la France insoumise avec Mélenchon qui dit la République c'est moi et traiter le président de bâtard.
Non, mais il a pas traité encore une fois.
Mais tu sais bien comme moi, Pierre,
les mots sont importants.
Les mots sont importants et il a fait employer ce mot à dessein pour qu'on retienne Macron bâtard.
C'est sûr que ça lui a fait beaucoup de
publicité. Il a fait ça exprès. Ouais. Donc voilà. Et moi je trouve quand même qu'on devrait quand même avoir un certain respect de la fonction et eux-mêmes. Ils représentent des gens. C'est une élection quand même de représentation. On doit respecter ça.
C'est ça. On demande aux sportifs de donner l'exemple en permanence. Les hommes politiques pourraient faire exactement la même chose.
Oui, encore une fois, je suis entièrement d'accord avec vous. Simplement, je sais pas, une insulte. Alors, à dessein, je pense qu'effectivement, il avait conscience des conséquences et il a fait exprès de dire ce mot-là.
Enfin, il est intelligent,
c'est sûr. Et je pense pas qu'au quotidien, il parle de cette manière. Mais encore une fois, c'est pas une insulte directe.
Le monde politique est à l'image de la société qui est de plus en plus violente verbalement.
François Ruffin, au quotidien, c'est pas quelqu'un de vulgaire, si tu veux. Il avait pleinement conscience des conséquences de son acte. Ça, j'en suis sûr.
Ah oui, moi aussi.
Deuxième extrait dans ce zapping. Apolline Matin, les boîtes de nuit sont-elles devenues des lieux dangereux pour les femmes? Depuis un mois en France, plus de 60 d'entre elles se sont plaintes d'avoir été piquées lors d'une soirée par des inconnus. Des piqûres repérées sur le bras ou la cuisse, accompagnées de nausées ou de vertiges, sans savoir quel produit a été injecté. Témoignage de plusieurs femmes ce matin sur AMC.
On dansait vers 2h50 du matin. En fait, j'ai senti une piqûre au niveau de l'épaule. Et c'est le lendemain, en fait, que je me suis rendu compte que j'avais une trace de piqûre, en fait, sur l'épaule.
Franchement, ça me fait peur. C'est vrai qu'on se dit, on va pas sortir comme ça, n'importe comment, toute seule. Je pense que ça fait peur à plein de monde. Ce qui se passe, c'est quand même flippant et c'est pas rien. On profite moins, on est toujours obligé de faire attention. Donc, moi, je vais me calmer un peu en attendant.
Mais c'est vrai que c'est mystérieux et ça fait peur, hein, Catherine Rambert, parce qu'on voit que ces filles ont été piquées, elles ne savent pas avec quoi, elles ne savent pas comment, elles ne savent pas par qui. C'est quand même assez effrayant.
Alors, n'ayant pas été en boîte personnellement récemment, je n'ai pas été victime de ça. Mais non, ce qui est très mystérieux et inquiétant dans cette affaire, ça touche des femmes. Et surtout, ils n'ont pas trouvé de produit. Il n'y a pas de trace de GHB, cette drogue.
Ça disparaît très vite, le GHB.
En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces piqûres. C'est un fait. Il y a des rassemblements, pas que dans des boîtes, hein, les soirées dans des trucs festifs et tout, il y a eu ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel était le dessin, puisqu'il n'y a pas eu de victimes de viol ou d'abus après ça. Et on n'a pas trouvé à quel produit c'était pour être lié ces piqûres. Donc l'enquête suit son cours.
Et après, c'est pas qu'une sorte de produit, parce que Robert Sebag, qui est infectiologue, le rappelait ici même sur ce plateau, c'est que cette seringue, elle peut être infectée, tout simplement. Et si elle a piqué plusieurs personnes, enfin, voilà, elle peut être aussi, ça peut être vecteur d'autres maladies, le VIH notamment.
Oui, mais comme ça touche que les femmes, majorité de femmes, je crois, on peut supposer que c'est peut-être un produit pour troubler leur conscience. À voir.
Ce qui m'étonne, après, encore une fois, je suis consterné par ce genre de choses et d'affaires. À chaque fois, je veux dire, à bout d'un moment, si on n'est pas capable de pouvoir convenablement discuter, aborder une fille, on reste chez soi. C'est grave de passer. Si, encore une fois, le but de ces piqûres à dessein, c'est d'aller de GHB ou autre, de violer, d'embêter une fille en soirée. Parce que pour l'instant, voilà, on n'a pas de conséquences.
Et après, ça peut être aussi de la violence purement gratuite, malheureusement, comme on l'a vu avec dans un tout autre ordre d'idée, ces agressions contre des chevaux dans les prés, sans aucune raison, uniquement pour le plaisir de nuire, en fait. Donc ça, malheureusement, ça existe aussi.
J'ai pas entendu Ruffin traiter des agresseurs de bâtards, c'est bizarre.
Ruffin, il a un peu critiqué, mais il a beaucoup fait contre, justement, pas ce genre d'agression précisément, mais vis-à-vis des femmes. Non, mais il y a aussi, voilà, je veux dire, là, pour ce cas-là, très précisément, violence gratuite.
Ah, mais ça, c'est des bâtards, les mecs qui font ça.
Oui, mais totalement.
Voilà, oui, d'accord. Voilà.
C'est pas des filles.
Laissons les mots au bon endroit.
Exactement. Nouvel extrait dans ce zapping, les grandes gueules ce matin. Faut-il développer la voiture électrique en France alors que les coûts de production vont exploser dans quelques années? L'électrique pourrait nous garantir une indépendance énergétique, comme le soulignait le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Il était invité des GG ce matin.
Tout le monde veut faire de l'électrique partout dans le monde et donc il y a une concurrence pour les ressources. Par exemple, sur l'hydrogène, on a un coup à jouer en France. J'en parlais encore hier au président de la République. On a le nucléaire, on sait produire de l'électricité décarbonée en quantité et on voit bien que d'autres pays en Europe, je pense aux Allemands, ont fait des choix quand même qui sont aujourd'hui des choix de dépendance au gaz russe ailleurs. Donc là, on a vraiment sur plusieurs dizaines d'années des politiques incroyables, des politiques de puissance de la France à se constituer. C'est beaucoup d'emplois qualifiés, c'est beaucoup d'emplois en France, c'est beaucoup de rayonnement de la France à l'international. Après, le sujet, c'est comment on recycle. Et là, on a une industrie nucléaire, par exemple, avec l'ex Areva, Orano, qui s'est recyclé quasiment 99% des éléments chimiques des batteries. Oui. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut construire demain.
Est-ce qu'on fait fausse route, Pierre Rondeau, avec cette envie de tout électrique en France, alors que Jean-Baptiste Djebbari le disait, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi certains biocarburants, voilà, on pourrait
en
faire
tout cas,
autre chose que l'électrique.
La recherche est un croisement, on sait qu'il faut changer et accélérer la transition vers le non-pétrole, si je puis dire, en tout cas, il faut sortir du pétrole et tendre vers ces énergies, alors alternatives, électricité, mais aussi hydrogène et biocarburants.
Oui, alors que la France, en plus, est très bien placée sur l'hydrogène et les biocarburants.
Après, le là où je suis, alors j'ai nuancé quelque peu mon propos parce que je suis d'accord avec ce que dit globalement le ministre des Transports, monsieur Djebbari, c'est sur l'indépendance énergétique en mettant en avant le nucléaire. Effectivement, on produit en France du nucléaire, mais
vu l'état de nos centrales,
tout de même dépendant de l'uranium, et l'uranium on le produit pas en France, bien importé de mines d'uranium en Afrique notamment. Donc de là parler d'indépendance totale, si demain on arrête la mondialisation, on ferme les frontières, on ne pourra pas aussi produire du nucléaire parce qu'on aura besoin d'uranium qu'on ne produit pas en France. Donc c'est toujours un faux débat de dire l'indépendance énergétique. Je suis d'accord avec cette énergie qui est non polluante, non émettrice de CO2, mais la gestion des déchets et même en amont l'acquisition de cette matière première pour produire de l'électricité. Donc voilà, c'est des débats qu'il faut avoir et il faut augmenter les investissements et l'innovation.
Est-ce qu'on s'est trompé finalement pour vous, Laurent Dandrieu, avec cette promotion du tout électrique justement? Et puis là on voit aussi la difficulté avec les problèmes d'approvisionnement de certains composants, quoi.
Les problèmes d'approvisionnement de certains composants, les problèmes de pollution en amont, puisque ce sont des composants qui sont polluants, qu'on ne sait pas en plus les batteries retraitées après. Oui, je pense que de toute façon, quand on y a ce genre d'engouement, tout à coup, on veut faire du tout ceci ou du tout cela, il y a forcément une part d'erreur. En plus, on s'aperçoit que les bus électriques prennent feu, donc
oui, c'est ça.
L'électrique tue, si ça se trouve.
Non, il n'y a pas eu de blessé.
Donc non, il y a peut-être effectivement d'autres pistes à explorer prioritairement.
Mais non, mais il y a un mix énergétique.
C'est bien quand on a 50 km à faire par jour, Pierre.
Non, mais il y a un mix énergétique. Moi, ça m'agace toujours. Là, Djebbari, j'ai l'impression qu'il postule au futur ministère de l'énergie, un truc comme ça m'agace. On sait bien que maintenant la solution elle est dans le mix, qu'il va falloir un peu d'électrique, un peu d'hydrogène, un petit peu de biocarburant, enfin voilà, et un peu de vélo, Pierre, pour toi. Donc voilà, moi ça, j'aime pas vraiment ces postures de allez, on peut faire
super
ça.
Vélo,
comme l'a rappelé Pierre, on est forcément dépendant de quelque chose. Donc faisons le mix et on sera plus tranquille et plus, comme on dit, mettons pas tous nos œufs dans le même panier.
Oui, mais sauf que le problème, c'est que les aides gouvernementales, elles sont dans le même panier parce que vous pouvez toujours essayer de.
Et qui va les acheter, les voitures? Les Français n'ont pas d'argent, ils sont ruinés.
Oui, certes, mais aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture avec un boîtier bioéthanol, vous avez zéro financement de l'État. Ouais, alors qu'en revanche, vous voulez acheter une voiture électrique, alors là.
Et vous avez 5 000 euros
d'aide. Donc c'est ça qui ne va
vous
pas.
Vous avez 5 000 euros d'aide, mais quand la voiture électrique coûte 25 000 euros à l'achat, forcément, ça fait toujours 20 000 euros à dépenser. C'est beaucoup trop pour le Français moyen.
Et bien donc autant financer les boîtiers de conversion en
d'accord avec vous, mais oui, et aller vers une autre forme de transition locomotive et pas uniquement tout miser sur l'électrique.
Estelle, présidente, je vous le dis depuis le début.
Dans 5 ans, trop dans 5 ans.
Dernier extrait, ou 7 ans, on ne sait pas. Dernier extrait dans ce zapping. La gauche est-elle de retour dans le match politique? Un accord est en passe d'être signé pour les législatives entre l'EPS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, mais pour Kevin Bossuet des GG, cet accord serait une erreur puisque ces partis n'ont aucune valeur commune.
À partir du moment où le Parti Socialiste se soumet à la France Insoumise, en fait, le Parti Socialiste perd son âme. Il y en a beaucoup qui sont en train de quitter le Parti Socialiste. Je pense par exemple à Paul Melun, qui était encarté au Parti Socialiste, qui quitte le Parti Socialiste parce que c'est un républicain fervent. Il est hors de question qu'il s'allie avec un parti parfois un peu soumis à une forme d'islamo-gauchiste qui tient des propos éhontés sur nos policiers qui font du populisme bas de gamme dans nos banlieues. Et je
donc
pense
t'es plutôt dans la théorie de Manuel Valls, ces gauches sont irréconciliables.
Ces gauches sont irréconciliables, Kevin, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, il y a une rupture démocratique. Et dernière chose que j'aimerais dire, imaginez si LR était en train de négocier avec le Rassemblement National. Imaginez ce que ce ferait. Donc, ça se ferait tous les titres dans nos journaux. Ça serait la rediabolisation.
Bon, Kevin Bossuet est terrifié par un accord éventuel entre les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Enfin, on a passé notre temps là ces derniers mois à dire la gauche est désunie. Est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle?
Alors, on peut s'en féliciter. Évidemment, le PS va avaler énormément de couleuvres, mais ils ont fait 2% à la présidentielle.
Pas tout à fait.
Oui, enfin, pas tout à fait. Ils se doivent de survivre. On sait que c'est très important pour eux les législatives parce que ça c'est ce qui permet de fixer le financement des partis, donc ils se doivent absolument d'avoir à minima une quinzaine de députés. S'ils n'ont pas cette quinzaine de députés après une alliance avec la FI, c'est la mort du parti.
Oui, mais Pierre, au point de se renier à ce point.
Oui, mais s'ils le font pas, ils meurent.
Le PS, il est pro-européen toujours.
Ils sont agonisants.
Mélenchon, il appelle à la désobéissance européenne quand ça l'arrangera. Et puis aussi, quid de la laïcité? Parce que les quartiers où il n'y a plus de République en France, ça ne le gêne pas tellement, Mélenchon, hein, quand quand il parle de créolisation,
c'est deux valeurs fondamentales de la gauche
à laquelle ils sont en train de renoncer.
Mais ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de candidats aux législatives qui vont faire campagne sur un programme qui ne leur convient pas, auquel ils adhèrent pas. Et du coup, enfin, on l'a bien vu avec Valérie Pécresse, c'est compliqué de faire campagne sur un programme en lequel vous croyez pas. Je voudrais juste dire aussi que du coup, comme la gauche est en train de s'organiser et de s'unir, le RN et Reconquête, s'ils veulent pas être balayés, ils feraient bien de mettre leur querelle de côté, de s'entendre, sinon ils vont avoir des problèmes.
Oui, parce que ça non plus, c'est pas gagné. Martin Bourdin.
Oui, juste pour info, les négociations entre le PS et la France Insoumise sont suspendues. Ça vient de tomber, donc voilà, elles sont suspendues.
On a parlé pour rien.
Eh ben, on a bien fait de débattre. Heureusement que c'était court. Dans un instant, on est vendredi, les notaires vont répondre avec cette question. A-t-on le droit de déshériter un enfant? A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Nous sommes vendredi, vous êtes dans Estelle Midi et vous le savez, le vendredi, on parle mariage, succession, donation, divorce, achat immobilier, on parle notaire, c'est le rendez-vous des notaires justement, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
les notaires vous répondent.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Maître Pierre Lemay, notaire et rédacteur en chef de la revue Conseil des notaires. Bonjour Maître.
Bonjour.
Alors Maître, on va parler de succession avec une question épineuse aujourd'hui. C'est une question que nous a posée Gérard, 59 ans, qui nous a écrit à l'adresse notaire pour vous@rmc.fr. Gérard qui nous dit « Bonjour, j'ai un enfant issu d'un premier mariage qui ne me parle plus depuis que je me suis remariée. Et puis, j'ai eu des jumeaux avec ma nouvelle épouse. Puis-je donner un peu d'argent à mes jumeaux, mais pas à mon premier enfant? Et comment ?» La question de Gérard, tout simplement, c'est « Peut-il déshériter un enfant ?»
Alors, la première chose, c'est qu'il dit je veux donner un peu d'argent. Alors, c'est un peu aussi selon l'importance de sa donation. On peut peut-être parfois considérer que c'est un présent d'usage à partir du moment où il se dépouille pas vraiment. Dans le cas contraire, on est en face d'un don. Et dans ce cas-là, il peut avantager ses jumeaux, mais dans une certaine limite. Et cette limite, on ne la connaîtra qu'au jour de son décès. En tout, il a 3 enfants et il a donc la possibilité d'avantager qui il veut, donc ses jumeaux en l'occurrence, à concurrence d'un quart de ses biens. Ce qui fait que la somme qu'il pourrait donner s'imputerait sur cette part et les jumeaux n'auraient pas à rendre à leur frère la somme dont ils ont bénéficié.
Alors, en fait, si j'ai bien compris, Maître, ça veut dire que dans le cadre d'un don ou d'un héritage, en fait, vous ne pouvez pas avantager un enfant par rapport à un autre de plus de 25%, c'est ça? Même si, par exemple, imaginez, par exemple, j'ai un enfant qui m'accompagne jusqu'à ma fin de vie, qui est là tous les jours, qui m'héberge chez lui, formidable, et un autre à qui je ne parle plus depuis des années, je suis obligée quasiment de leur donner la même somme. Ben, c'est quand même injuste.
Non, vous n'êtes pas obligé de donner la même somme puisque vous pouvez varier compte tenu de l'existence de cette quotité disponible.
Mais à ce moment-là, oui, mais c'est juste 25% de différence. C'est pas beaucoup.
S'il y a trois enfants, c'est 25%. S'il y a 2 enfants, c'est un tiers. Et donc, vous pouvez le faire en faisant un testament. Et de toute façon, si vous faites une donation, un simple don manuel, il va falloir préciser quelque part que vous souhaitez que cela s'impute sur la quotité disponible. Alors, 2 possibilités, soit vous passez devant un notaire qui va vous faire le contrat qui va bien et qui va démontrer que vous avez voulu avantager les 2 enfants, soit vous faites un testament pour préciser que les dons que vous avez pu faire, ces dons étaient faits pour avantager les enfants en plus de leur part normale.
Mais Maître, ça veut dire clairement, par exemple, un parent qui n'aurait pas vu son enfant depuis 45 ans, qui n'aurait pas de nouvelles, rien, ne peut pas le déshériter s'il le souhaite. C'est impossible, ça?
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il doit hériter d'un minimum, et ça remonte à nos grands principes révolutionnaires, où tout le monde a droit à quelque chose dans la succession de ses parents.
Et est-ce qu'on peut donner plus à quelqu'un hors famille, par exemple, qui a un de ses enfants?
Oui, toujours dans la limite de cette quotité disponible. J'ai 3 enfants, je peux donner un quart de mes biens à qui je veux, ce qui peut être à mon conjoint, puisque là, Gérard s'est remarié. La question se pose également peut-être de faire quelque chose au profit de sa nouvelle épouse.
Eh ben merci beaucoup, maître Pierre Lemay. En tout cas, on aura appris plein de choses grâce à vous. Aujourd'hui, dans les notaires, vous répondre tout autre sujet dans un instant. On va parler topless. Faut-il autoriser la pratique du sein nu en piscine? C'est en tout cas ce qui va se faire en Allemagne. Faut-il faire la même chose en France? Eh ben écoutez, n'hésitez pas à témoigner. On attend vos appels au 3216, vos messages sur l'application RMC, rubrique direct studio. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.